journal Charles Tour.
Bonjour, bonjour à tous. Quand la situation économique rend la vie quotidienne intenable et qu'il suffit d'une étincelle pour faire éclater la colère populaire au Chili, où la hausse du prix des tickets de métro a provoqué de violentes émeutes, le président parle de guerre ce matin. Au Liban, où des centaines de milliers de personnes ont fait fi de leurs confessions et divergences politiques pour manifester côte à côte. En France, retour progressif à la normale dans les trains. Aujourd'hui, quelques perturbations encore sur les TER et intercités, mais une colère toujours latente. Le Brexit et cet éternel sentiment de déjà-vu, on en parle avec votre invité à 8h20, Nicolas.
Oui, il s'agit de la députée européenne La France Insoumise, Manon Aubry. Elle est dans le grand entretien du 7-9. Vous pouvez lui poser toutes les questions que vous souhaitez, dialoguer avec elle. 01 45 24 7000, le standard est ouvert.
Dans l'actualité du jour également, mobilisation en Bretagne contre l'expulsion de 33 Géorgiens au début du mois. La campagne annuelle de vaccination contre la grippe, ça marche chez les patients, moins chez ceux qui les soignent. Et puis un tableau du 17e à découvrir, non pas au musée, mais dans une boutique de luxe, ce sera à la fin de ce journal.
France Inter.
Au moins 7 morts au Chili en marge des manifestations débutées ce week-end et qui se poursuivent aujourd'hui. Bus et voitures en feu, scènes de pillage, de vandalisme. La colère des Chiliens pour protester contre une situation économique devenue intenable en réponse à ces manifestations. Arrestations violentes, état d'urgence décrété dans la capitale et l'armée déployée dans les rues. Les Chiliens n'ont pas vu cela depuis l'ère Pinochet. Bonjour Olivier Poujade.
Bonjour.
Cette nuit, le président chilien Sébastien Piñera a eu des mots très forts.
Oui, une situation que ne parvient pas à contrôler son gouvernement. À l'origine du mouvement étudiant dénonçant l'augmentation du prix du métro, du prix du ticket de métro, après 3 jours de violence, un état d'urgence étendu à toutes les grandes villes du pays, et le président Sébastien Piñera qui évoque lui-même le début d'une guerre.
Nous sommes en guerre contre un ennemi puissant, implacable, qui ne respecte rien ni personne et qui est prêt à faire usage de la violence et de la délinquance sans aucune limite. Un ennemi qui est prêt à brûler nos hôpitaux, nos stations de métro, nos supermarchés, avec un seul objectif, provoquer le plus de dégâts possible.
Alors vous l'avez dit Olivier, tout a commencé à cause de la hausse du prix des tickets de métro. Le président est revenu sur cette décision et malgré tout la contestation ne faiblit pas.
Oui, dans tout le pays, des grandes surfaces continuent d'être dévalisées, des rames du métro de Santiago ont été incendiées, la violence est étendue à tout le territoire, en réaction cette fois à l'attitude des forces de sécurité chiliennes. Près de 10 000 soldats sont actuellement déployés, héritiers des méthodes employées sous la dictature d'Augusto Pinochet, méthode que dénoncent de nombreux citoyens à travers des vidéos postées sur les réseaux sociaux.
Comment pueden hacer esto? Comment pueden hacer esto, loco? Antes tu madre no tenía familia.
Mouvement social qui est en train donc de muter en guerre civile, une augmentation de quelques centimes d'euros, c'est ce que prévoyait le gouvernement. Cela peut paraître dérisoire, mais les inégalités sont fortes au Chili, supérieures de plus de 65% à la moyenne de l'OCDE. Une gestion de crise du président Piñera qui peut aussi sembler maladroite. Il évoque donc une guerre contre un ennemi puissant, prêt à faire usage de la violence sans aucune limite, laissant donc carte blanche dans les rues aux militaires chargés de rétablir l'ordre.
Merci Olivier Poujade. Et ce matin, l'ambassade de France invite ses ressortissants sur place à faire preuve de la plus grande prudence et de la plus grande vigilance. Au Liban, cette fois, même cause, mêmes effets ou presque. Et ce petit air de printemps arabe, d'ailleurs, c'est ce que revendiquent les Libanais, descendus en masse dans la rue pour la 4e journée consécutive. Des centaines de milliers de personnes qui ont fait fi de leurs confessions différentes et de leurs divergences politiques pour protester contre l'instauration de nouveaux impôts en particulier et là aussi contre la hausse du coût de la vie en général. Manifestations dans les rues de Beyrouth, Tripoli ou encore Tyr dans le sud du pays, pourtant majoritairement chiite et peu enclin à la contestation. Chloé Doma.
Sous le soleil et face à la mer, ils sont plus de 2000 réunis dans le centre-ville. Ambiance festive, des manifestants de tous les âges venus seuls, en famille ou entre amis, tous avec un drapeau libanais, comme Rami, 54 ans.
C'est la première fois qu'ils manifestent de telle ampleur. Là, vous avez des chrétiens derrière moi, des musulmans, sunnites, chiites, de toutes les confessions religieuses, de tous les bords.
4 jours de mobilisation et ils sont toujours plus nombreux. Leur cible, des responsables politiques corrompus et des partis communautaires hérités de la guerre civile, comme nous l'explique Iman.
On n'a ni électricité, ni de l'eau, ni on vit dans la pollution. Ils font rien. Ils sont tous des voleurs.
Ici à Tyr, la majorité est chiite, en principe tenue d'une main de fer par deux partis, le Hezbollah et Amal, qui n'a pas hésité samedi à envoyer ses miliciens mater la contestation.
Ils ont créé des problèmes pour qu'on recule. Mais on n'a pas peur, on n'a pas accepté, on est resté dans les rues.
Pas question de plier, les Libanais restent mobilisés. C'est tout un système dont ils veulent se libérer. À Tyr, Chloé Doma, France Inter.
Il est 8h06, la crise des opiacés, Charlotte, et ses dizaines de morts d'overdose chaque jour devant la justice américaine.
On se souvient de ce procès historique contre les industriels du tabac, l'audience qui s'ouvre aujourd'hui aux États-Unis pourrait être plus retentissante encore, jugée plus tôt. Plusieurs géants pharmaceutiques sur les bancs des prévenus, 2300 plaignants particuliers, tribus indiennes, comtés ou états, et des milliards de dollars en jeu après pour ce procès dans lequel des géants du médicament sont accusés d'avoir sciemment favorisé la dépendance aux opiacés, en commercialisant des antidouleurs parfois nettement plus puissants que l'héroïne. Au Canada, 27 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour les élections législatives, avec en jeu le poste de Premier ministre de Justin Trudeau, le libéral sortant, donné au coude à coude dans les sondages avec son rival conservateur Andrew Scheer, dans ce pays grand comme 18 fois la France et où le taux de chômage est inférieur à 3%. En Bolivie, il faudra un deuxième tour au président sortant Evo Morales pour espérer être réélu, arrivé largement en tête de l'élection présidentielle, mais c'est une habitude pour lui qui brigue son quatrième mandat. Ce qu'il est moins en revanche, c'est qu'il soit talonné d'aussi près par son rival, le centriste et lui-même ancien président du pays, Carlos Mesas, qui contraint donc Evo Morales à un deuxième tour. Circulation perturbée encore pour les intercités, les TER, avec 2 trains sur 3 en circulation aujourd'hui. La SNCF promet une amélioration dans la journée. Pour les TGV, les trains Ouigo et les Transiliens, le trafic est déjà revenu à la normale. Après 3 jours de fortes perturbations dues à ce que les cheminots revendiquent comme un droit de retrait, ce que le gouvernement dénonce plutôt comme une grève détournée. Après cette collision mercredi dernier d'un TER et d'un convoi exceptionnel en Champagne-Ardenne, 11 blessés, dont le conducteur du train qui a dû gérer la situation tout seul, car seul salarié de la SNCF à bord. Sandrine Otoandeg.
Plus de 3/4 des TER au niveau national et tous les Transiliens en Ile-de-France circulent avec sans autre agent à bord que le conducteur. Les syndicats veulent la fin de ce dispositif. L'option n'est pas envisagée par la direction de la SNCF. Selon elle, ce système rodé depuis des dizaines d'années a été conçu en toute sécurité. C'est une erreur, estime Gérard, contrôleur. Il a exercé son droit de retrait vendredi et samedi par solidarité.
Conducteur de train, c'est un métier avec beaucoup de responsabilités en tout cas. On parle de choses sérieuses, quoi. On parle de sécurité. Nous, on est sur le terrain, on voit. J'ai l'impression qu'ils sont déconnectés et qu'ils ont parlé de tout sauf de ce qu'on mettait en avant nous.
Roméo, agent d'escale à Gare de Lyon, n'a pas pris part au mouvement social, mais dénonce les menaces de sanctions individuelles du gouvernement contre ceux qui y ont participé.
Il met de l'huile sur le feu et ça, je pense que ça va fâcher les cheminots encore plus qu'autre chose, quoi. Parce que je trouve que c'est une bonne cause. On défend les usagers. Je comprends les usagers que ce soit fâcheux pour eux, mais les gens ne savent pas ce que c'est en fait le rôle d'un cheminot. Ils ne comprennent pas nos conditions. Franchement, c'est super difficile. Tant qu'on ne sera pas entendu, il faut continuer.
Pour ces cheminots, l'épisode de ce week-end illustre un malaise profond à la SNCF. Les questions de sécurité et celles des retraites sont liées. Ils suivront l'appel à la grève lancé par la CGT le 5 décembre.
À noter que la circulation du RERC est partiellement interrompue ce matin en région parisienne du fait de la découverte d'un corps sur les voies, a-t-on appris de nos confrères de France Bleu Paris. Des années de mésentente et désormais un conflit judiciaire entre l'architecte Jean Nouvel et la Philharmonie de Paris, c'est une information France Inter. L'architecte a décidé de porter plainte pour concussion et favoritisme. En clair, il proteste contre la facture de 110 millions d'euros que lui réclame le complexe musical au titre de pénalité de retard. Des retards du fait de la Philharmonie elle-même, rétorque Jean Nouvel qui estime que tout a été fait pour l'écarter de son projet. Un vol au départ de Rennes à son bord, 33 Géorgiens expulsés de Bretagne. C'était le 4 octobre dernier et depuis, Rennes, Douarnenez, les manifestations s'enchaînent pour protester contre la brutalité de ces arrestations. Julie Pietri.
Ce jour-là, 33 personnes identifiées par l'État sont donc récupérées aux quatre coins de la Bretagne. Parmi elles, des familles avec enfants scolarisés et un couple de compagnons Emmaüs qui travaillait auprès de Sabrina Lebrun dans le Morbihan. L'homme a été expulsé, sa femme, qui s'est tailladée les veines en apprenant la nouvelle, est restée en France.
Martin, il a été envoyé le soir même, sans savoir ce que sa femme venait de faire, au centre de rétention et renvoyé en Géorgie. Dans le fond, Je ne comprends pas, mais il y a la loi. Dans la forme, ça ne se fait pas. Il y a une dame enceinte de 7 mois avec une grossesse pathologique qu'on a renvoyée dans son pays avec son autre enfant.
La préfecture d'Ille-et-Vilaine précise que chaque personne expulsée était en situation irrégulière, la plupart déboutée du droit d'asile, que la Géorgie est un pays sûr et que l'éloignement a été réalisé de manière respectueuse et digne. Marie Enoch de la CIMAD Bretagne estime, elle, que les Géorgiens sont aujourd'hui discriminés.
Il y a un discours au plus haut sommet de l'État. Il y aurait beaucoup trop de Géorgiens et d'Albanais qui seraient là plutôt pour bénéficier de notre système de sécurité sociale, donc pour des motifs qui seraient illégitimes, ce qu'on ne peut que condamner.
Selon les chiffres récoltés sur le terrain par la CIMAD, association présente dans certains centres de rétention français, pas tous, il faut le préciser, les expulsions de Géorgiens ont progressé de 30% déjà entre 2018 et 2019, alors que l'année n'est pas encore terminée.
Il est 8h11, la campagne annuelle contre la grippe.
Et ce qui pourrait devenir un nouvel adage, les personnels hospitaliers sont les plus mal vaccinés, ce qui est devenu quasiment un réflexe désormais pour les personnes âgées ou malades, l'est beaucoup moins pour ceux qui les soignent dans les hôpitaux ou les EHPAD. Et la question d'une vaccination obligatoire se pose cette année encore, car une meilleure prévention des personnels soignants permettrait une diminution significative de l'épidémie. Daniel Messager.
Les infirmiers et les aides-soignantes sont au plus près des malades, au plus près pour les soigner, mais aussi pour transmettre éventuellement des virus. Pourtant, la vaccination contre la grippe n'est pas obligatoire. Chez ces personnels, la couverture vaccinale est nettement insuffisante, comme si elle suivait une sorte de hiérarchie, car les médecins sont plutôt bien vaccinés, entre 50 et 60%, les infirmiers et infirmières moins, et les aides-soignantes encore moins, en dessous de 20%. Mieux inciter ces professions de santé à se faire vacciner, en leur démontrant avec des chiffres les bienfaits, c'est ce qu'explique au sein des hôpitaux de Lyon le professeur Bruno Lina, il est virologue spécialiste de la grippe.
Tout simplement en expliquant que lorsque la couverture vaccinale d'une équipe de soignants monte, et monte suffisamment pour être aux alentours de 45-50%, on voit en parallèle diminuer de façon très significative le risque de grippe. Les conséquences positives sont immédiatement visibles et on voit que le nombre de cas de grippe nosocomiale, et c'est ce qu'on a observé dans les hôpitaux, a été réduit de plus de 60%.
L'an dernier, l'épidémie de grippe avait été modérée, de courte durée, avec 1 800 000 consultations et 9 900 décès, mais on ne sait jamais à l'avance de quelle teneur va être exactement l'épidémie à venir.
La grippe contre laquelle, nouveauté cette année, vous pouvez vous faire vacciner directement chez votre pharmacien. Les dépenses de santé, tiens, justement, en débat à l'Assemblée avant le vote demain en première lecture du projet de budget 2020 et celui de la sécurité sociale pour l'année prochaine. Au cœur des débats, comme chaque année, la question du trou de la Sécu, 5 milliards d'euros de déficit, des discussions qui s'annoncent houleuses, car se sont ajoutées dans la balance les dépenses liées aux mesures annoncées en réponse à la crise des gilets jaunes. Pour éviter de creuser un peu plus encore la dette sociale, députés et sénateurs réclament donc des compensations financières. Delphine Simon.
L'objectif, c'est de combler le trou de la Sécu d'ici 2024. Sauf que les déficits des branches maladie, famille, vieillesse s'accumulent à l'ACOS, l'agence qui gère une partie de l'ardoise. En 4 ans, ils ont quasiment doublé selon la Cour des comptes. La faute à la croissance, l'inflation et la masse salariale moins favorables. Quant aux pensions de retraite, elles sont plus dynamiques que prévu. L'assurance vieillesse supporte en plus l'essentiel des mesures d'urgence post-gilets jaunes, des mesures non compensées par l'État, une première en 25 ans. Tout cela creuse à nouveau le trou de la Sécu. De 23 milliards aujourd'hui, la dette sociale pourrait atteindre 40 milliards d'ici 3 ans, selon le secrétaire d'État Olivier Dussopt. Mais pas de quoi inquiéter Bercy, avec des taux d'intérêt aussi bas et qui vont le rester, c'est gérable. Sauf que désormais, les marges de manœuvre sont limitées, ce qui compromet toute mesure sociale pour la famille ou la dépendance. Comment financer les EHPAD, la psychiatrie et les urgences, s'interrogent certains députés de la majorité. Avant le vote en séance, ils ont voté contre la non-compensation des mesures gilets jaunes par l'État.
Le départ de Mathieu Pigas après 17 ans à la tête de la banque d'affaires Lazare, le banquier star plus basket que costume trois pièces vient d'officialiser les rumeurs qui couraient depuis un mois déjà et annonce quitter le groupe pour la fin de l'année afin, selon ses mots, de s'engager dans un projet personnel de nature entrepreneuriale. C'est une toile monumentale que vous ne verrez ni au Louvre, ni au musée d'Orsay, ni dans n'importe quel autre musée d'ailleurs, car ce tableau du XVIIe siècle, daté de l'école Charles Lebrun, peintre de la cour de Louis XIV, est exposé dans la boutique de luxe, Oscar de la Renta, à deux pas des Champs-Élysées. Une huile sur toile découverte complètement par hasard lors de travaux d'aménagement de la boutique. Delphine Evenou.
Le tableau, 6 mètres par 3, trône au fond de la boutique, dans un salon cossu, celui des luxueuses robes de mariée, auxquelles il vole un peu la vedette.
C'est comme un diamant.
Benoît Janson, restaurateur intarissable.
C'est quand même l'histoire du roi soleil qui envoie le marquis de Nointel aux échelles du Levant, devant la Jérusalem céleste, avec... tout le côté luxuriant, le côté même orientaliste avec les Turcs vêtus de vêtements comme ça, rouges, éclatants.
Il a passé 6 mois à redonner son éclat à la toile.
Ce tableau, quand je l'ai vu pour la première fois, il était tout noir, on voyait rien.
Car il était, pour une raison encore mystérieuse, bien caché depuis des décennies.
Devant ce tableau, il y avait une cloison en briques. Quand les architectes sont venus, ils ont commencé à tout démolir et en fait, on a découvert... ce grand tableau marouflé sur le mur.
Aujourd'hui, les habits chatoyants du marquis de Nointel côtoient des robes à plusieurs milliers d'euros. La boutique est un écrin, assure le restaurateur passionné. Et le tableau, une aubaine, souffle Sissi, commercial chargé d'attirer la clientèle chinoise.
Ça marche énormément. C'est vraiment française. En fait, chic, à la fois haute couture. Il y a toutes les cultures vraiment françaises qui se mélangent ici, dans la même pièce.
Et pour admirer l'œuvre, rassurez-vous, aucune obligation d'achat.
Un tableau que vous pourrez découvrir en photo sur franceinter.fr. Nouveau logo pour les Jeux Olympiques de 2024, dévoilé en grande pompe à 20h24. Tout est dans la symbolique ce soir au Grand Rex. Une nouvelle identité visuelle à 5 ans des JO, dont on ne sait rien ou presque, si ce n'est que la Tour Eiffel n'y figurera plus.
Merci Charlotte Piret.